Maurice Leblanc, Les Contes du Gil Blas, 1892-1896. Préface. À l'exception de l'ami de la logique, les contes ci-après ont paru dans le quotidien parisien Le Gil Blas, où Maurice Leblanc fit ses débuts le 3 octobre 1892. Et poursuivit sa collaboration jusqu'au 29 décembre 1897. La visite. Le major dit au fourrier qui conduisait à la visite des réservistes de la 3e batterie : « Faites déshabiller vos hommes pendant que j'examine ceux de la 2e. » Le fourrier commanda. « Déshabillez-vous. » Les réservistes obéirent. Charles Ramel défit le dolman et le pantalon dont on l'avait affublé la veille, les déposa sur un lit avec les vêtements de ses voisins, mais garda ses flanelles et son caleçon car il grelottait, étant chétif et de santé médiocre. On se trouvait dans une salle de l'infirmerie, vaste et froide. Les fenêtres grillées donnaient peu de lumière. D'ailleurs, il pleuvait dehors, une pluie glaciale d'automne que chassaient des bourrasques de vent. Quelques lits, couverts d'effets, s'alignaient contre les murs. Au centre, devant une table où un maréchal des logis inscrivait les décisions du major, des hommes nus formaient un demi-cercle. Le médecin les appelait un à un, les examinait de face et de dos, jugeait leurs réclamations et les renvoyait. Une odeur forte viciait l'atmosphère. Des corps défilèrent, étranges et disparates. De courtes jambes frêles portaient de gros bustes lourds. Des bras descendaient jusqu'aux genoux. Des pieds accidentés s'attachaient à des mollets tortueux. Et il y avait des êtres d'un jaune diode, d'autres d'un blanc de cierge, d'autres d'un rouge de viande saignante. Quelques-uns se lamentèrent. Il se présenta particulièrement un pauvre garçon, maigre et pâle, qui gémissait. Il crachait le sang, prétendait-il. Le major ricana. « Prouvez-le, mon ami. En attendant, vous ferez comme tout le monde. » Charles eut un sursaut. Parfois, son mouchoir se teintait de rose quand il l'appliquait le matin contre sa bouche, et une vilaine toux lui arrachait les poumons. Fils de veuve, il n'avait point fait de service militaire, mais la loi l'obligeait à une double période sous les drapeaux. Il comptait néanmoins être réformé pour faiblesse de constitution. L'attitude du major lui parut de mauvais présage. Une voix impérieuse le secoua. Le fourrier l'apostrophait. « Eh bien, qu'est-ce que vous fichez, vous? Vous ne pouvez pas vous déshabiller ?» En toute hâte, il enleva ses derniers vêtements, et il resta debout, misérable et la peau frissonnante. Ses dents claquaient. Et soudain, en face de lui, parmi les hommes de sa batterie, il aperçut l'amant de sa femme, nu. Leurs regards se croisèrent. Paul Brancourt le reconnut. Ils semblèrent se défier un instant, tous deux l'air agressif. Puis Paul, réprimant un sourire, tourna la tête, mit les mains sur ses hanches et se campa en une pose hautaine. C'était un beau gars, de stature élevée et de visage mâle. Sa large poitrine respirait librement. Il avait un aspect souple et fort. Sous sa peau sèche, très blanche, saillaient des muscles puissants. Il émanait de lui une telle sensation de beauté plastique que ceux qui l'entouraient, ouvriers ou paysans à l'intelligence grossière, en subissaient le charme et le considérait avec une curiosité inconsciente, comme un être à part, d'une matière et d'une forme autres que les leurs. Et une souffrance bizarre montait en l'âme de Charles Ramel. Il ne pouvait détacher les yeux de ce corps maudit. Irrémédiablement, ils étaient rivés à ses lignes vigoureuses. Ils s'accrochaient aux bras nerveux, aux jambes nobles, aux chevilles minces. Et en même temps, une multitude d'idées tristes s'abattait sur lui. Tout de suite, le hanta le souvenir de sa femme. Il se rappela sa tendresse pour elle, sa foi naïve, son bonheur. Puis la lettre de Paul Brancourt, découverte par hasard dans un livre de messe. Puis les aveux de Suzanne, ses larmes, ses menteuses paroles de repentir, la grâce féline de ses gestes. Et il se remémora la scène du pardon, le morne voyage à travers l'Italie, l'interminable hiver à Naples. Depuis, lâchement, il s'efforçait de ne rien surprendre. Les retards, les mines fatiguées, les bouderies, les querelles, il excusait tout. Les femmes ne sont-elles pas coutumières de fantaisies irraisonnées? Mais, au fond, il savait l'implacable vérité, le lien d'amour que rien ne brisait entre Suzanne et Paul. Et la cause de son martyre se trouvait là, à quelques pas de lui. C'était cet homme qu'il ne pouvait pas ne pas voir en sa nudité radieuse. Une colère le cingla. Il serra les poings, prêt à se ruer sur son rival. Il eût voulu l'abattre, écraser cette silhouette dont il sentait l'attitude insolente. Surtout, une jalousie atroce lui tordait le cœur. Cette peau, les lèvres de sa femme s'y collaient éperdument. Pas une place qu'elle n'eût marquée d'un baiser. C'était comme un tissu de caresse qui s'appliquait aux formes mêmes. Cette bouche connaissait la bouche de Suzanne et son haleine d'enfant. Ses mains, la chair de Suzanne les avait imprégnées de son parfum tiède. Le gonflement de ses jeunes seins les avait arrondis. Ses pieds s'y étaient réchauffés. La veille, peut-être, ce corps frissonnait sous de petits baisers menus, à peine appuyés, des baisers de sa femme. Peut-être aussi se crispait-il, mordu par des dents rageuses, les dents de sa femme, dont il s'imaginait distinguer les traces encore fraîches. Des visions plus nettes l'assiégèrent. Il les aperçut réellement nus, tous deux. Les hideuses évocations que subissent les époux trompés. La présence de l'amant les lui infligea avec une intensité d'autant plus effroyable. À voir ses bras, il devinait leur enlacement impérieux et doux. Autour de ce cou, Suzanne se suspendait. Ses jambes se mêlaient aux siennes. Cette peau touchait sa peau d'un contact absolu. Il fit un effort suprême pour tourner la tête. Partout, le couple se dessinait identique. Il céda, revint à Paul. Mais cette fois, sa souffrance fut aiguë au point de lui arracher un sanglot. Malgré lui, malgré la honte qu'il en ressentait, invinciblement, ses yeux se mouillaient. Ses jambes fléchirent. Il s'assit sur le rebord du lit, le regard toujours fixe comme agrippé. La possession de sa femme par un autre se matérialisait, et il éprouva dans toute son horreur la sensation précise de leur étreinte. Des mots lui éraflèrent la gorge. Il eût voulu crier pour que cet homme s'en allât et que s'évanouît l'abominable spectacle. Ses mains se joignirent, se tendirent presque en un geste de supplication. Et des minutes infinies passèrent, où il dut contempler, en face de lui, l'amant de sa femme, nu. À la fin, sa douleur trop excessive s'adoucit. La vilenie de son obsession l'écœura. Il baissa la tête. Alors, il se vit, lui. Il se vit pour la première fois, tel qu'il était, malingre et grotesque. Ses os crevaient la poitrine. Les côtes s'étageaient en cercles distincts, avec des vallées et des trous et des ressauts. Les cuisses, toutes fluettes, formaient un arc et aboutissaient à des genoux dont la boîte bombait comme une grosse boule isolée. Et il avait une vilaine peau terreuse qui semblait toujours sale. Une grande confusion l'emplit. Inquiet des sarcasmes que son pauvre corps devait susciter, il souhaita de le vêtir, de cacher sa laideur aux yeux d'autrui, à ses propres yeux même. Il en avait pitié comme d'une chose vilaine, déformée, en dehors des conditions normales. Toute sa rage jalouse se dissipait. Il ne lui restait plus qu'un désespoir sans bornes. Il observa ses camarades. Comme lui, certains étaient mal proportionnés, trop gras ou trop maigres. Il les plaignit. D'autres attendaient, fiers inconsciemment de leur ligne. Il les envia, mais d'une envie apaisée, dépourvue d'amertume. Enfin, il se tourna vers Paul Brancourt. Le major l'examinait. Tout de suite, il ressentit une admiration involontaire et un peu douloureuse. Et des idées nouvelles, qu'il ne songeait pas à analyser, entrèrent de force dans son esprit. De la comparaison que le hasard lui imposait, il concluait nécessairement à son infériorité. Il comptait parmi les faibles et les désarmés. Son rival, parmi les forts et les beaux, parmi ceux que la nature a choisis pour perpétuer l'espèce. Dans la lutte d'amour, il était voué à la défaite. Son rôle lui commandait de s'effacer, de disparaître. S'il était blessé, il n'avait à s'en prendre qu'à lui. Pourquoi entamer un combat inégal en épousant une femme toute de luxe et de passion? Il l'a compris. Il comprit que les désirs et les caresses de cette exquise créature devaient aller vers ce mâle superbe. Sa chair, à elle, réclamait une chair jeune et savoureuse, et non sa chair, à lui, malsaine et flétrie. L'union de son corps et du corps de Suzanne était indigne, monstrueuse même. Mais qu'elle se donnât à cet amant était juste et légitime. Une résignation attristée le pénétra. Il se sentit bon, généreux, indulgent, sans colère ni haine. Et du fond de son être rasséréné, il excusa la faute de sa femme. Il excusa toutes ses fautes futures. On l'appelait. Il se dirigea vers la table, tremblant de froid, honteux de sa nudité ridicule. Il courbait la tête, pris d'une timidité subite, comme d'une pudeur de vierge. En l'apercevant, le major fit « Ho, ho !» avec une intonation si railleuse que Charles s'arrêta interdit, les bras ballants. Le médecin prononça « Vous n'avez rien à réclamer ?» Instinctivement, Charles leva les yeux vers Paul Brancourt. L'autre le contemplait, toujours ironique. Alors, il ne se souvint plus de sa poitrine malade, ni de ses membres débiles, ni de son sang appauvri. Une poussée d'orgueil le redressa. Il n'en voulait certes pas à son vainqueur, mais devant lui, il se refusait à confesser sa misère et sa disgrâce. Et il répondit fermement, sans penser aux conséquences de sa réplique. « Non, monsieur le major, ma santé est bonne. » Le Gil Blas, 31 octobre 1892.